Les Français d'Occitanie, comme les Français tout court, ont voté. Ils ont tranché en faveur de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon arrive le troisième de ce scrutin. Nous regardons ce matin ensemble les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle dans notre région. Et pour nous guider dans leur analyse, nous sommes accompagnés par Pierre Aiguy, doctorant en sciences de l'information et de la communication et chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse en communication politique. Bonjour Pierre Aiguy.
Bonjour Isabelle Duché.
Merci de votre présence de bon matin. Ce matin, il a fallu décrypter les résultats cette nuit. Le premier score marquant de cette élection est celui de l'abstention. Hier, la tendance s'est accentuée selon les villes de notre région, donnant un taux d'abstention pour l'Occitanie à 21,75%. Comment expliquez-vous ce taux d'abstention?
Je crois que le taux d'abstention s'explique d'abord et avant tout par une lassitude des électeurs qui, en l'occurrence, ont été confrontés à une campagne qui n'a pas été à la hauteur de leurs attentes, de leurs préoccupations. La première d'entre elles, le pouvoir d'achat, qui a été très très peu adressé, l'écologie également. Ce sont des problématiques qui ont été extrêmement peu adressées par les candidats, notamment par le président de la République, qui a fait non pas une non-campagne, mais a fait une campagne minimaliste. On a eu 3 temps dans sa campagne, une déclaration de candidature, une conférence de presse pour présenter le programme, et un seul et unique meeting. C'est assez maigre pour une campagne présidentielle et je pense que cette campagne minimaliste du président de la République a contribué à éroder l'intérêt pour cette campagne. D'autre part, je voudrais ajouter qu'il y a eu le contexte international, naturellement.
Avec la guerre en Ukraine.
Effectivement, qui a phagocyté l'espace médiatique et qui a donné encore moins d'espace pour la campagne présidentielle. Bon, plus généralement, c'est des choses qu'on sait bien, mais on a une défiance vis-à-vis des responsables politiques qui est de très longue date en France et du régime représentatif en général. Ce régime représentatif qui réduit la démocratie à la question du vote. Et on sait que les citoyens ont envie de démocratie, ont besoin de démocratie. Il n'y a qu'à voir les sondages en faveur du référendum d'initiative citoyenne constituant, donc la version la plus aboutie du référendum d'initiative citoyenne. 73% des sondés y sont favorables. C'est un sondage du mois de février de cette année. Et la 6e République, 63% des sondés y sont favorables. Là, c'est un sondage d'août 2021.
Un sujet qui était une proposition du candidat Jean-Luc Mélenchon.
Tout à fait, tout à fait.
Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs ont voté, je le disais, pour Marine Le Pen à 24,62%. Emmanuel Macron arrive deuxième avec 23,48% et il devance de peu Jean-Luc Mélenchon qui est élu à 22,42%. Donc ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, ces trois candidats. Et cet ordre confirme celui du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Quelle analyse pouvez-vous nous faire de ce peloton de tête par rapport aussi à 2017?
Eh bien écoutez, effectivement, on a exactement le même peloton de tête, avec donc Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on peut observer tout d'abord, c'est que les trois progressent sur la région Occitanie. Donc Marine Le Pen, 7% de progression, Emmanuel Macron 5% et Jean-Luc Mélenchon un peu plus de 1%. Donc on voit bien que les tendances sont les mêmes. Et effectivement, donc avec un fort score de Marine Le Pen. Ceci dit, ce qu'on peut dire, c'est que l'écart s'est un petit peu élargi. On avait en 2017 les trois candidats qui étaient en moins de 30 000 voix. Et cette fois-ci, Marine Le Pen est à un peu plus de 815 000 voix. Jean-Luc Mélenchon, à 742. Donc on a un écart qui s'est un petit peu élargi. Marine Le Pen un petit peu, prend le large, j'allais dire. Et je pense qu'elle a bénéficié d'un vote à nouveau contestataire et aussi du quinquennat Macron qui s'achève, qui a pu cristalliser certains mécontentements, qui a pu convaincre des électeurs qui ont été mécontents par les mesures prises. Et voilà, je pense qu'on peut l'expliquer notamment comme ça.
Vous vouliez revenir sur des déclarations de certains candidats, donc notamment de ceux de ce peloton de tête. Est-ce que vous pouvez nous préciser brièvement ce qu'ils ont dit?
Oui, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit le président de la République qui a parlé en dernier. Hein, on peut penser qu'il a attendu que tout le monde ait pris la parole pour parler. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que Emmanuel Macron n'a pas cédé au triomphalisme, comme on a pu le voir il y a 5 ans, avec sa fameuse sortie à la rotonde, où ça avait un petit peu fait polémique à l'image de Nicolas Sarkozy 10 ans plus tôt au Phuket. Et donc en fait, Emmanuel Macron, il y a 5 ans, quasiment dès le premier tour, c'était la victoire pour lui dans sa tête, d'où cette sortie à la rotonde. Et là, je pense qu'il est beaucoup plus mesuré, et il a conscience que ça va être beaucoup plus serré au second tour. Il a remercié ses électeurs, naturellement. Il a appelé au rassemblement. Et également, il a salué Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant a eu une position assez similaire de celle d'il y a 5 ans, c'est-à-dire pas une voix pour Marine Le Pen, mais il n'a pas pour autant appelé à voter pour Emmanuel Macron.
Il a été très discret sur cette consigne.
Mais Emmanuel Macron a tout à fait conscience que, vu le score de Jean-Luc Mélenchon, il aura besoin d'une partie substantielle de ses électeurs pour remporter le second tour. Donc, il veut également les ménager, il veut essayer de les convaincre. Et il a dit explicitement « J'ai conscience que certaines personnes voteront pour moi pour faire barrage et j'ai bien conscience que ce vote ne sera pas un vote d'adhésion. » Donc Emmanuel Macron semble prendre acte de la dynamique de barrage qui va s'opérer au second tour et souhaite rassembler, et y compris ceux, et ça il le disait dans une interview après sa déclaration, faire travailler avec lui des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui a priori, essayer d'élargir sa base. Voilà ce que souhaite faire Emmanuel Macron. Il disait « je veux tendre la main ».
Et c'est vrai que dans notre région où Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e pour ce premier tour de l'élection présidentielle, il y aura certainement des votes qui se prononceront en faveur d'Emmanuel Macron, si on suit cet appel.
Oui, bien sûr. C'est évident que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se prononceront pour Emmanuel Macron. Également, certains se prononceront pour Marine Le Pen. J'entendais hier les premiers sondages qui disaient qu'on avait une partie assez substantielle de l'électorat Mélenchon qui envisageait de voter pour Marine Le Pen. C'est pas complètement absurde dans la mesure où ils peuvent se retrouver sur certaines thématiques, notamment celle du pouvoir d'achat, celle de des conditions de vie des plus précaires. Ils ont des discours qui peuvent se recouper sur ces thématiques-là.
Dans l'idée d'un vote contestataire aussi.
Oui, tout à fait. Un vote contestataire, une posture plutôt souverainiste. Donc effectivement, sur ces thématiques-là, on peut avoir des proximités entre les deux électorats.
Alors nous avons ces trois candidats qui se tiennent dans un mouchoir de poche dans notre région Occitanie. Et qui, de ce fait, ça entraîne une disparition quasi automatique des candidats de la droite et de la gauche qui ne donnent que faiblement leur voix à Valérie Pécresse. Il y a 3,90% dans notre région Occitanie pour cette candidate des Républicains, et la candidate pour le Parti Socialiste, Anne Hidalgo, ne recueille que 2,33% des voix. C'est quand même une grosse claque, si on peut dire. Quelle interprétation faites-vous?
Grosse claque, oui, effectivement, grosse claque pour les partis de gouvernement. On avait déjà vu il y a 5 ans, ça commençait à être difficile pour le PS. Le Parti Les Républicains s'était maintenu à un haut score. Je parle plutôt au niveau national, avec François Fillon. Là, effectivement, on a un effondrement aussi bien des Républicains et d'autant plus du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Moi, je pense qu'il faut regarder la candidature de Yannick Jadot. Il y a 5 ans, Benoît Hamon et Yannick Jadot s'étaient alliés. Yannick Jadot s'était retiré au profit de Benoît Hamon. Et donc je pense que si on additionne le score de Yannick Jadot et celui d'Anne Hidalgo, on ne doit pas être très loin du score de Benoît Hamon il y a 5 ans, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Donc finalement, il y a 5 ans, c'était un petit peu un score en trompe-l'œil pour Benoît Hamon, même si ça restait un score assez faible, mais moins qu'aujourd'hui. Un peu un score en trompe-l'œil car il avait bénéficié de la dynamique écologiste. Et j'aimerais ajouter une seconde chose, c'est que Benoît Hamon avait été désigné à l'issue d'un processus de primaire, ce qui a pu lui octroyer une certaine légitimité, j'allais dire, face aux électeurs, là où cette fois-ci Anne Hidalgo a été désignée au sein d'un processus purement interne au PS. Et donc, on a un peu le sentiment, les Français ont peut-être eu le sentiment d'une espèce de tambouille interne à l'issue de laquelle on a désigné la candidate socialiste.
Oui, voilà. et peut-être d'une espèce de choix des élites parisiennes et qui peut paraître quand même très très loin pour notre région Occitanie.
Tout à fait, tout à fait.
Et vous le disiez justement que le candidat de la droite, François Fillon, qui avait été plébiscité en 2017 à évidemment disparu des radars. Et c'est vrai que dans ce, il était en 2017 troisième ou quatrième dans les départements de notre région Midi-Pyrénées à l'époque. Maintenant, ce candidat de la droite a complètement disparu et il a été plutôt remplacé par Jean Lassalle, remplacé si on peut dire, puisque les électeurs de notre région ont donné entre 8 et 10% de leur vote pour ce petit candidat. Qu'est-ce que ça explique ?
Alors oui, effectivement, score assez élevé de Jean Lassalle, il est à plus de 10% dans le Gers. Au niveau national, il dépasse le million de voix. Jean Lassalle, c'est le candidat de la ruralité. Jean Lassalle, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'agriculture, qui a été technicien agricole, qui est maire d'une petite commune dans les Pyrénées. Et donc, c'est quelqu'un qui incarne la ruralité, qui comprend les problématiques de la ruralité, pour les avoir vécues lui-même. Et donc, je pense qu'il a cette image de sincérité et de proximité avec certains électeurs ruraux. Ce qui peut expliquer ce score. Et puis, au-delà de ça, Jean Lassalle, c'est quelqu'un de sympathique. Donc, ça peut paraître anodin de dire, mais c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un
qui inspire confiance.
Vous allez rire, j'écoutais un sondage il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, avec qui souhaiteriez-vous partir en camping ? Et les Français répondaient Jean Lassalle. Et donc ça, on peut en rire, mais ça montre bien cette image de sympathie, cette image de proximité que peut inspirer Jean Lassalle.
Dans la commune en Aveyron, pardon, dans cette commune de Viviers ou la SAM, vous savez, cette fonderie qui est malheureusement menacée de fermeture, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a récolté la majorité des suffrages. Là, c'est aussi peut-être un vote de réaction, un vote pour essayer de se serrer les coudes face à cette fermeture, à ce projet de fermeture.
Oui, je crois, c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas. On a eu en novembre 2021 la fonderie qui a été placée en liquidation. La fonderie SAM, c'est 350 emplois malgré tout. Et depuis, elle est occupée par ses salariés. Alors, il y a eu une décision le 23 mars du tribunal correctionnel d'expulser la fonderie. Mais encore la semaine dernière, le 5 avril, donc mardi, il y a eu un rassemblement devant l'usine et un projet de reprise a été posé sur la table par MH Industries et il est actuellement à l'étude. Des discussions sont en cours entre les salariés et l'État et la préfecture pour essayer de trouver une solution. Mais effectivement, on peut penser que le score de Jean-Luc Mélenchon reflète ce mécontentement et cette volonté de trouver une solution et puis... un fort mécontentement, d'autant plus, j'ajouterais que aucun candidat, ou les gros candidats en tout cas, ne se sont pas rendus sur place. Et en fait, ça aurait pu être le symbole d'une volonté de réindustrialisation de la France, cette usine. Ça aurait pu, comme Whirlpool en 2017 à Amiens l'a été, mais je ne sais pas, les candidats ne s'en sont pas emparés dans cette drôle de campagne. Personne n'y a allé et du coup, là-bas sur place, les salariés se sentent un peu délaissés et il y a du mécontentement, il y a de la colère et de l'incompréhension de leur part.
Alors pour terminer, il nous reste 30 secondes. Je voulais que on fasse un petit zoom sur l'intervention de Georges Méric qui n'a pas caché sa déception quant à l'échec du candidat PS pour le Parti socialiste donc d'Anne Hidalgo et puis Carole Delga qui a été un petit peu plus discrète sur cet échec mais qui de façon beaucoup plus dynamique a appelé quand même les électeurs à voter Emmanuel Macron.
Oui bien sûr, Carole Delga est sans concession vis-à-vis de ça. Ce que j'ai noté dans son communiqué, c'est assez intéressant. Elle dit qu'il faut voter avec son cœur plutôt qu'avec ses peurs. Donc voter avec son cœur reviendrait à voter pour Emmanuel Macron.
Selon ses paroles.
Selon ses dires, je trouve ça assez étonnant puisque moi je pense que beaucoup de gens vont voter Emmanuel Macron par peur d'une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Et donc c'est pour ça que j'ai été assez étonné par ce passage du communiqué de la présidente de région. Et Carole Delga, elle se pose clairement en première ligne dans les années qui viennent pour rassembler la gauche, enfin une gauche républicaine comme elle entend l'incarner. Et il n'est pas absurde de penser qu'elle pourra jouer un rôle au plan national dans les prochaines années.
À suivre. Merci beaucoup, Pierre Aiguille, pour votre éclairage ce matin.
Merci, Isabelle Duché.